C'est la première fois que nous avons atteint un tel nombre de disparus sur la même année d'enquête, 28 cas, en sachant qu'il y a beaucoup d'autres cas qu'on n'a pas documentés. Cela signifie que l'année 2018 a été une année de grande répression et une année très, très violente, en dépit d'un semblant de calme qu'on voit sur le terrain au Burundi.
Vous vous basez généralement sur des témoignages pour documenter les cas de disparition forcée. Quelles sont les preuves dont vous disposez pour rendre crédibles les dénonciations que vous faites?
Les autorités burundaises n'attaquent jamais le contenu même des rapports que nous produisons. Ils nous attaquent autrement. Ils n'arrivent pas à dire que ce que nous avons dit n'est pas correct, parce qu'après tout, ils n'arrivent pas à montrer où se trouvent toutes ces personnes que nous avons, sur ces cas que nous avons documentés.
Apparemment, les autorités burundaises se défendent de ce que les cas dont vous parlez ne soient tous des cas de disparition forcée. Ils rappellent souvent la définition du terme disparition forcée. Comment est-ce que vous réagissez?
Dans la majorité des cas, nous montrons comment la personne a été arrêté et qui l'a arrêté. Nous montrons clairement quels sont les agents de l'État qui ont été impliqués dans cette arrestation ou dans cet enlèvement. Là, je dois dire d'abord que dans la majorité des cas, les personnes sont arrêtées au vu et aussi au vu des citoyens burundais. Et quand bien même ce ne serait même pas des cas de disparition forcée, si c'était le cas, c'est l'obligation d'une police dans n'importe quel pays d'enquêter lorsqu'il y a annonce d'un cas de disparition d'un citoyen. C'est complètement anormal et toutes ces explications du gouvernement ne tiennent pas et n'ont aucun sens.
Alors, sur le site internet de la campagne Ndondeza, vous mentionnez que les cas d'enlèvement deviennent un peu difficiles à identifier. Il devient de plus en plus difficile aux familles de savoir dans quelles circonstances leurs proches ont ou a été enlevés.
Oui, ça, c'est un aspect qu'on a constaté entre juin et octobre 2018 et que nous avons dénoncé. Mais nous avons trouvé aussi d'autres cas où l'ancienne pratique, le modus operandi existant depuis avril 2015 a continué aussi à exister.
Alors, dans votre liste, beaucoup de concernés sont des membres du MSD, de l'opposant Alexis Sindouidje. Ne craignez-vous pas d'être taxé d'être l'avocat de Monsieur Sindouidje?
Ce n'est pas le cas. Je dois dire que sur les 28 cas que nous avons documentés en 2018, c'est vrai qu'il y a une bonne partie jusqu'en août 2018 où nous avons constaté beaucoup de militants du parti MSD qui ont disparu. Et par contre, dans la deuxième moitié de 2018, on constate plutôt de plus en plus de militants du FNR d'Agathon Rwasa qui ont également disparu. Et je dois dire aussi que nous enquêtons sur les cas aussi des membres du CNDD-FDD. Vous en trouverez des
Le parti
militaires,
au pouvoir.
oui, du parti au pouvoir. Donc, il y a aussi des gens qui n'appartiennent à aucun parti politique. Donc, ça n'a aucun sens. On n'est pas militant du MSD. Je ne peux pas être à la fois militant du MSD, du FNL et de la société civile et du parti au pouvoir. C'est impossible.
Vous interpellez dans chaque post sur Twitter que vous faites dans le cadre de la campagne d'Ondesa le pouvoir de Pierre Nkurunziza, mais il n'a jamais répondu.
C'est vraiment anormal. Chaque fois que nous publions un cas de disparition forcée, nous l'adressons à Pierre Nkurunziza lui-même, en espérant que peut-être il arrivera un jour à répondre à toutes à nos demandes. Et nous faisons aussi cela pour qu'un jour il ne dise pas qu'il n'avait pas su. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous adresser au compte du chef de l'État, des membres du gouvernement, de tout ce qui devait intervenir, pour qu'un jour il ne dise pas qu'il ne savait pas.